Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour assister au 7e colloque de la Société française de psychanalyse intégrative. Au nom du conseil d'administration et en mon nom, je vous souhaite la bienvenue. Merci à celles et ceux qui nous font l'honneur aujourd'hui d'intervenir. Martine Sandor-Buteau, Nicolas Evzonaz qui est déjà là avec nous, Nicolas Sosson et Maë Bitard. Ils viendront partager avec nous leur point de vue et leurs réflexions sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, sexe, genre et société, les identités remarquables. Je remercie aussi les membres de l'ASFPI qui vont nous proposer les trois ateliers de cet après-midi, Stéphanie Duchesne, Didier Duhazet, Laurence Verkensauzet. Je remercie aussi vivement les membres du conseil d'administration qui ont été particulièrement actifs et engagés dans l'organisation de ce colloque et dans la vie de notre association, et sans qui tout ça n'aurait pas pu avoir lieu, sans leur engouement et leur bonne humeur. Je remercie aussi notre libraire, Thierry Durnérin. Sa librairie Au bonheur des livres nous proposera des livres autour du thème de notre colloque, mais aussi les livres de nos intervenants. Le livre de Martine Sandor-Buteau, coécrit Dans la tête des juges, et le livre de Nicolas Evzonaz, Devenir trans de l'analyste. Vous pourrez aussi, aux pauses, la pause de ce matin et la pause de cet après-midi, vous faire dédicacer ces livres par leurs auteurs. Ça vaut la peine. Vous pourrez aussi faire l'acquisition de petits opuscules qui sont des livrets d'entretien qu'Odile Brouet, Emmanuel Restivaux et Benoît Depreux ont menés auprès de personnes qui ont été autour de la co-création, de la co-pensée de la psychanalyse intégrative. Il y en a deux aujourd'hui, une interview d'Edmond Marc et une interview de Patrick Michaud. Ces livrets sont en vente. Ève Craquelin, qu'elle en soit remerciée, s'occupera de la vente de ces livrets. Il y a aussi des livres qui ont été édités et qui regroupe à la fois les écrits sur l'art de Jean-Michel Fourcade et des articles et conférences qu'il avait données autour de la psychanalyse intégrative. Je voudrais enfin saluer tous les membres de l'association, c'est-à-dire une grande partie de vous, sans laquelle la SFPI ne pourrait pas être vivante. Alors j'ai aussi une pensée émue pour ceux qui ont disparu depuis notre dernier colloque et qui faisaient partie de la galaxie de la SFPI. Je pense tout d'abord à Patrick Michaud, qui nous a quittés en mars 2024, à l'âge de 78 ans. Patrick était kinésithérapeute de formation initiale, psychologue, superviseur. Il a été enseignant à la Faculté libre de développement et de psychothérapie dès 1995 et directeur d'études à la nouvelle Faculté libre à partir de 2000. Il a été membre de la Société française de psychanalyse intégrative dès sa création, en 2011. Patrick a été un ami fidèle de Jean-Michel Fourcade, attaché à faire vivre sa mémoire après son décès, en accompagnant de près les projets de la SFPI et suivant avec intérêt ses activités. Peu de temps après le décès de Patrick, en avril de la même année, Manuel Garcia Barroso nous a quittés à son tour, à l'âge de 94 ans. Il était membre d'honneur de la SFPI, psychiatre, psychanalyste, membre de la SPP. Il avait travaillé au Royaume-Uni avec Winnicott. Proche d'Ophélia Avron, il a transmis généreusement à des générations d'étudiants de la nouvelle faculté libre sa riche pratique du psychodrame analytique en groupe. Et plus récemment encore, en avril de cette année, Alain Amselek est décédé à l'âge de 91 ans. Il était aussi membre d'honneur de la SFPI, psychanalyste et philosophe. Il avait été témoin des années héroïques d'introduction en France des nouvelles thérapies en provenance des États-Unis, la psychologie humaniste, et après un parcours de thérapeute bio-énergéticien, il s'était frotté à la psychanalyse, Jung, puis Freud et Lacan. Bon, revenons à notre colloque. Donc depuis 2011, date de la création de la SFPI, il y a eu 6 colloques, et celui-ci est le 7e. Bon, même si leurs thématiques diffèrent, ils interrogent à chaque fois la complexité d'un monde en mutation et la façon dont nous autres, psychanalystes intégratifs, sommes amenés à la considérer, à l'écouter, sans jamais perdre de vue que c'est de nos patients que nous apprenons. L'intitulé de notre colloque d'aujourd'hui, « Sexe, genre et société, les identités remarquables », rappelle de ce point de vue ce qu'énonçait Didier Anzieux dans la Revue française de psychanalyse en 1975, dans un article intitulé « La psychanalyse encore ». Il disait, je cite, « Le problème n'est pas de répéter ce qu'a trouvé Freud face à la crise de l'ère victorienne. Il est de trouver une réponse psychanalytique au malaise du sujet moderne dans notre civilisation présente. Un travail de type psychanalytique a à se faire là où surgit l'inconscient, debout, assis ou allongé, individuellement, en groupe ou dans une famille, partout où un sujet peut laisser parler ses angoisses et ses fantasmes à quelqu'un supposé les entendre et apte à lui en rendre compte. Toutes celles et ceux qui ont connu Jean-Michel Fourcade savent peut-être qu'au cours des dernières années de sa pratique professionnelle, il a élargi son champ de recherche au questionnement sur le genre. Ainsi, dans une communication de 2010 intitulée « Hétérosexualité, homosexualité, transsexualité, une compréhension limite », communication qu'il avait faite auprès de l'Institut international de sociologie clinique et qui est reprise dans l'ouvrage que vous pourrez trouver en vente, il s'interrogeait sur, je cite, « les concepts à l'œuvre dans le fonctionnement sexuel hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, mais aussi des modèles masculins et féminins, sexe et genre ». Et il affirmait que, je cite, « l'élargissement paradigmatique que représente la notion de genre par rapport à celle de sexe lui semblait de même ordre que celui qu'il avait opéré dans ses travaux sur l'organisation psychique limite, dont il stipulait qu'il s'agit d'une organisation psychique normale résultant de l'état de la société occidentale actuelle. Pour ma part, je ne suis pas convaincue, en fait, que les questionnements autour du genre soient une des caractéristiques de la mutation de nos sociétés actuelles. J'en veux pour preuve la bicatégorisation homme-femme, basée sur le sexe anatomique, qui n'est apparue qu'à partir du XVIIIe siècle. Les travaux de l'historien américain Thomas Laker montrent qu'un modèle unisexe, hérité de Galien, a prévalu jusqu'au siècle des Lumières. Dans ce modèle, masculin et féminin étaient les deux extrémités d'un continuum de genre. Le pénis et le vagin n'étaient pas deux anatomies différentes, mais une même structure, l'une extérieure, l'autre intérieure, se renversant, se retournant même comme un gant. Si l'on remonte encore un peu plus loin, la rabbine Pauline Bèbe rappelait en 2022 dans l'émission « À voix nue » sur France Culture que la tradition talmudique dénombre jusqu'à 7 genres différents. Le nouveau-né peut être identifié en tant que garçon, en tant que fille, en tant que tumtum, c'est-à-dire un sujet de sexe inconnu parce que ses organes génitaux sont couverts ou cachés, en tant qu'androgyne, en tant qu'aïélonite, un sujet identifié fille à la naissance et qui développe à la puberté des caractères secondaires masculins, ou en tant ou encore, il y a une autre version, j'ai plus le nom, qui est un sujet identifié mâle à la naissance et qui ne développe pas les caractères secondaires masculins à la puberté. Dès l'époque antique, le passage d'un sexe à l'autre est envisagé. Ovide raconte comment Tirésias fait l'expérience des deux sexes après avoir troublé de son bâton l'accouplement de serpents. À l'époque médiévale, la fluidité de genre se retrouve à travers de nombreux récits de travestissement, que ce soit à travers l'historiographie de saintes, comme Jeanne d'Arc, ou de moins connues, comme Matronas Babilas, ou à travers des romans populaires, comme celui de Silence, l'histoire d'une enfant née fille, que ses parents élèvent comme un garçon, pour contourner l'interdiction faite aux filles d'hériter. En grandissant, Silence devient le centre d'un débat entre la figure allégorique de nature, qui l'encourage à vivre selon son sexe, et celui de nos retours, l'éducation, qui l'exhorte plutôt à poursuivre son éducation masculine. Et puis je pense aussi à Virginia Woolf et à son fabuleux Orlando, écrit en 1928, et qui met en scène un jeune aristocrate anglais qui traverse les siècles et qui se réveille un beau jour après un très long sommeil dans le corps d'une femme. Françoise Héritier rappelle quant à elle que la bipartition genrée est avant tout une affaire culturelle. Ainsi, environ 30% des enfants inuits sont élevés en travestis, portant les vêtements et accomplissant les tâches de l'autre sexe jusqu'à la puberté et le mariage. Alors que chez les Nuers du Sud-Soudan, les femmes stériles ou ménopausées deviennent des hommes, sont considérées comme telles et ont des épouses. Pour Laqueur, c'est à partir du XVIIIe siècle que le modèle d'opposition entre les deux sexes biologiques apparaît, avec l'essor de la biologie et de la médecine. Freud, héritier des Lumières, affirmait ainsi en 1923 « L'anatomie, c'est le destin, un destin sur lequel buterait l'inconscient ». Pour Freud, l'inconscient donnerait la primauté au phallus et selon sa logique, l'opposition ne serait pas entre deux termes, pénis-vagin, mais autour de la présence-absence d'un seul terme, le phallus, une logique du 0 et du 1. D'autre part, nous serions tous inconsciemment habités par des désirs féminins et masculins et nous serions prêts à tous les compromis pour jouir des potentialités des deux sexes. C'est la bisexualité psychique freudienne. Gérard Bonnel énonce ainsi « Le problème n'est pas seulement comment faire le choix d'un sexe déterminé, mais comment être homme ou femme dans les relations actuelles, tout en étant homme et femme en son fort inconscient. » Aujourd'hui, cet appareil théorique reposant sur le primat du phallus et la bisexualité psychique prévaut encore pour bon nombre de psychanalystes, même si, à la suite des travaux de Laplanche, principalement, les milieux psychanalytiques tentent de s'interroger sur le genre, concept introduit par les travaux du psychologue et sociologue néo-zélandais John Money dans les années 50, concept approfondi et développé dans les années 70 par les mouvements féministes, avec le célèbre « On ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir, ou encore avec le féminisme matérialiste de Monique Wittig et son non moins célèbre slogan « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». À notre tour aujourd'hui, nous allons nous interroger ensemble sur la façon dont les questions d'identité et de genre facilitées par les progrès de la médecine viennent bousculer notre pratique intégrative, même si nous nous astreignons à penser intersectionnalité et complexité. Nous allons débuter notre journée avec Martine Sandor-Buteau, avec elle nous tâcherons de revisiter les bases de la pensée freudienne, de poser quelques repères, de dégager les lignes de force pour essayer de penser ensemble ces questions d'identité sexuelle et de genre. Par la suite, Nicolas Evzonas nous amènera à penser le trouble transférentiel et épistémologique de l'analyste face au vécu de sujets s'identifiant comme trans ou non-binaires. Nous terminerons notre matinée avec Nicolas Sausson qui nous présentera une vignette clinique pour nous interroger sur notre pratique intégrative et en quoi elle pourrait être particulièrement adaptée à l'accompagnement de personnes trans ou non-binaires. En début d'après-midi, trois ateliers seront proposés pour nous permettre d'échanger, d'expérimenter, d'approfondir nos questionnements autour du thème de notre colloque. Stéphanie Duchesne proposera d'explorer à travers une médiation artistique nos fantasmes non symbolisés sur l'identité, le sexe et le genre, pour donner forme au corps de nos rêves. L'atelier proposé par Didier Duhazet permettra de faire une expérience de slamothérapie, autrement dit, d'un soin des mots de l'âme par les mots du slam. Enfin, l'atelier proposé par Laurence Verken-Sauzet donnera l'occasion de mettre en scène un premier entretien avec un patient se questionnant sur son identité de genre et d'explorer nos idées reçues, notre contre-transfert et notre capacité à accueillir cette inquiétante étrangeté, pour reprendre les mots de Freud. Si vous n'avez pas encore choisi votre atelier, vous pouvez encore le faire à la pause de ce matin qui est prévue vers 11h30, avant l'intervention de Nicolas Sausson. Nous nous retrouvons après les ateliers pour la dernière intervention de la journée. Ce sera l'occasion pour Maë Bitard de proposer une modalité d'accompagnement phénoménologique ancrée dans une vision de co-création relationnelle, de coprésence et d'interdépendance. À l'heure où les discours transphobes se multiplient, où l'administration Trump et ses émules ont mis en œuvre un certain nombre de décrets visant ostensiblement les savoirs universitaires sur les questions de genre, ainsi que les associations et personnes trans, il me semble nécessaire d'affirmer fermement la dimension subversive, si ce n'est transgressive, de la psychanalyse. Je me réjouis d'avance de nos échanges et vous propose, à la suite de Paul B. Preciado, dans sa tribune du journal Libération du 4 février dernier, de, je cite, « rejeter les taxonomies, les hiérarchies, migrer, muter, être trans, au moins le temps d'une journée ». À toutes et à tous, je souhaite un très bon colloque. Ouais.